Nous sommes de retour en direct sur Europe 1 pour le club de l'été en présence de notre invité, le comédien Vincent Dedienne. Vincent, souvent les gens nous demandent il est comment un tel dans la vraie vie, il est sympa. Vous voyez, à chaque fois quand on connaît un peu la, quand on a la chance. Jean-Pierre Foucault, etc. Et donc Vincent Dedienne, il est sympa. Ben oui, il est sympa Vincent, il est même plus que ça, il est bienveillant. La preuve, quand on vous a demandé quel était votre coup de cœur, vous nous avez répondu peut-être pourrions-nous rendre hommage à Edith Scob, immense actrice. Et ben, votre réponse, elle m'a émue, Vincent Dedienne. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette immense comédienne qui est décédée le 26 juin dernier?
Elle est, enfin, en même temps, c'est pas du tout. Elle est en fond d'écran sur mon.
Sur votre portable.
Mais à la radio, c'est nul. Mais oui, elle est décédée là. Bon, de toute façon, souvent, ça passe vite, en fait, les hommages. Hein. Évidemment, on rend hommage comme. J'ai l'impression que les gens meurent de plus en plus, donc on a de moins en moins de temps pour rendre hommage. Mais. C'est passé un peu inaperçu, ça m'a fait du chagrin parce que c'est vraiment une merveilleuse. Je crois qu'elle est morte à 82 ans, mais elle avait vraiment l'air d'avoir 44 ans.
C'est vrai.
elle a eu l'air d'une jeune fille toute sa vie. Et c'est une actrice de théâtre que j'ai vue deux fois sur scène, moi, et vraiment à chaque fois j'ai été cloué sur mon siège. Et au cinéma, je sais pas, puis elle est. Une actrice. Le moule.
Oui.
C'est cassé après sa naissance. Il n'y en avait vraiment pas deux comme elle. Elle a une silhouette très grande, très très
et très
délicate,
très belle.
Qu'elle aurait méritée.
Oui, absolument. Mais en même temps, je pense que peut-être ça lui allait parce qu'elle a quand même fait des grands. En fait, c'est vraiment une chérie des cinéphiles.
Bien
parce qu'elle a fait des films majeurs, vraiment majeurs.
Alors, je vous propose d'écouter un extrait d'un film pour lequel elle avait obtenu le César de la meilleure actrice dans un second rôle. Ça s'appelle L'heure d'été d'Olivia Sayas.
J'espère que t'es là encore pour longtemps, mais quand tu ne seras plus, les enfants seront grands. Et tu sais très bien comme ils sont attachés à cette maison, on y viendra souvent.
Oui, ils se sont attachés comme on est attaché à son enfance. Ils auront leur vie, leurs soucis, autre chose à faire qu'à se préoccuper de ce bric-à-brac d'un autre âge.
Qu'est-ce qu'elle disait?
Elle disait qu'après sa mort, la maison serait vendue, que c'était inévitable.
Mon souci, c'est qu'on soit tous.
Vous avez peut-être un point commun avec Edith Scob, Vincent Dedienne, c'est cette capacité à mener à la fois des projets dits d'auteur et des projets plus populaires, parce qu'on l'a vu aussi dans des feuilletons à la télévision, on l'a vu dans des films très populaires également, et du cinéma d'auteur, comme vous le disiez. Est-ce que vous êtes attentif, vous, à cet équilibre de faire à la fois des choses peut-être très exigeantes et des choses où vous faites plaisir, où c'est populaire au bon sens du terme?
Je ne suis pas attentif au sens stratège.
Vous calculez pas.
Non, pas du tout. Pas du tout. De toute façon, là, j'en ai encore. Même si je voulais, j'en aurais pas les moyens parce qu'on ne me propose pas encore suffisamment de trucs pour que je puisse faire mon marché et dire alors là, j'ai bien fait. Mais non, je suis attentif à faire des choses que je trouve bien. Et en fait, la qualité se glisse partout.
Est-ce que vous alliez au cinéma quand vous étiez enfant?
Non. Je suis allé voir Pocahontas.
Pocahontas. C'est bien aussi. Je vous pose la question parce qu'on a eu un coup de cœur pour un livre, presque un guide en fait, qui est intitulé « 100 grands films pour les petits », édité chez Grun et Arte Éditions. C'est un livre signé Lydia et Nicolas Beaucrieff. Bonjour Nicolas Beaucrieff.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes venu avec votre fils qui a presque 11 ans. Salut, tu veux dire un mot au micro? Attends, va-tu allumer ton micro? Salut. Et ton prénom?
William.
Salut William. Vous êtes réalisateur scénariste, Nicolas Beaucrieff, et désormais le meilleur ami des parents qui ne savent pas comment occuper leur rejeton, surtout pendant ces vacances d'été. Quelle bonne idée, un recueil de 100 films à partager avec nos enfants âgés de 3 à 8 ans. Comment est née cette idée et comment surtout vous avez réussi à faire la sélection de 100 films?
Alors, c'est une idée de mon épouse Lydia, qui est aussi la monteuse et qui est la monteuse de mes films. Et en fait, on s'est rendu compte, on est très cinéphiles, hein, c'est notre passion commune, on passe notre temps à regarder des films en permanence en fait.
On a
assez peu de vie sociale. Et on passe notre temps à montrer des films à nos enfants. Et on s'est rendu compte que la cinéphilie, en fait, avait tendance à disparaître totalement. Enfin, que le passage du siècle avait quand même fait du cinéma une sorte d'art ancien. C'est-à-dire que le cinéma muet, aujourd'hui, pour beaucoup de gens, c'est quelque chose de totalement abstrait. Et nous, on savait par expérience que montrer des films de l'histoire du cinéma, même très vieux, pouvait passionner les enfants. Et donc, on s'est dit petit à petit, mais c'est quand même dommage que voilà, les gens connaissent Toy Story, mais ceux qui connaissent Toy Story ne connaissent pas forcément Babe, le cochon devenu berger, que ceux qui connaissent Babe ne connaissent pas forcément Dark Crystal, et ainsi de suite. Et on s'est dit, mais pourquoi ne pas faire un guide qui permettrait aux gens d'éduquer leurs enfants à la cinéphilie, parce qu'aujourd'hui, on trouve tout. Mais c'est l'expertise qui est devenue rare.
On est bien
et comme nous, on est cinéphiles depuis l'âge de 15 ans et que je dois bien dire qu'on s'est vraiment gavé de films au fil des ans, on s'est dit peut-être qu'on est bien placé, à la fois comme parents, comme technicien du cinéma et comme cinéphile pour dire, voilà, de façon tout à fait humble et personnelle, oui. Voilà 100 films qu'on vous propose, qui commencent au cinéma muet et qui se terminent aujourd'hui.
Alors, d'ailleurs, en début de livre, vous donnez quelques conseils aux parents pour bien apprécier ce guide et guider leurs enfants. Est-ce que vous pouvez en partager quelques-uns avec les auditeurs pour qu'on comprenne bien la philosophie de
l'ouvrage? La première chose, c'est de voir les films avec les enfants. Oui. Parce que souvent, les gens mettent les enfants devant soit des chaînes pour enfants en se disant, bon, comme ça, on s'en débarrasse.
Devant un écran.
Mais ils ratent quelque chose qui est le bonheur de pouvoir partager un film avec un enfant, de le voir s'émouvoir devant des scènes qui nous ont nous-mêmes émus quand on était enfant, de la même façon qu'il y a un bonheur à lire un livre de contes le soir avant le coucher.
Oui.
Et un autre conseil qu'on donne, c'est on n'est pas obligé de voir un film jusqu'au bout. On peut faire comme un livre. Quand on lit un long conte aux enfants le soir, on dit, bon, là, on lira la suite demain. Bon, on peut très bien regarder un film de façon séquencée, montrer, puis s'arrêter dans une scène comme ça de climax où l'enfant va être hyper, je sais pas comment dire, avoir hyper envie de voir la suite et dire, voilà, on regardera la suite demain. Et c'est un partage de temps et d'une découverte artistique qui serait dommage que les parents ne puissent pas vivre avec leurs enfants.
William, il y a un film que t'adores plus que tout ?
Oui, Mon nom est personne.
Mon nom est personne, d'accord. Et ça, c'est papa qui te l'a fait regarder, Mon nom est personne, parce que toi, tu ne serais pas allé tout seul pour voir ce film.
Non, pas trop, parce que je n'aimais pas ce cinéma.
Si je ne connaissais pas ce cinéma-là, Alors, j'ai demandé à l'équipe quels étaient les films qui les avaient marqués quand ils étaient petits. Hein. Nicolas, il n'y a que moi qui réponds au guide, parce que Olivier Pouls, c'est quand même le gendarme à Saint-Tropez.
Oui, mais on a mis un De Funès.
Vous avez mis un De Funès, c'est vrai.
Forcément.
La Grande Vadrouille.
On s'est forcé, dit, on met un seul film par metteur en scène, parce que sinon, Chaplin, il en prend 5.
Mais bien sûr,
Et on met un seul film par grand acteur. De Funès était inévitable, et La Grande Vadrouille, c'est quand même le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre.
Mais il y a des petits encadrés à chaque fois où vous dites, si vous avez aimé ce film, vous pouvez évidemment aimer d'autres films. Alors, Lise Pressac, c'est Danse avec les loups.
Oui, avec Kevin Costner. J'avais 8 ans, je crois.
Non, mais c'est exactement pareil. C'est intéressant parce qu'on a mis, nous, La Flèche Brisée, qui est le premier western pro-indien.
Ah oui, voilà.
Donc, ça correspond avec Danse avec les loups, qui est, je dirais, un descendant 40 ans plus tard de La Flèche Brisée avec James Stewart, qui est un très beau film.
Vous voyez, alors, Pocahontas pour Vincent de Dienne, on reste avec les Indiens, forcément. Et moi, c'était E.T. Je pense qu'on est à peu près 1 million à bord d'E.T., mais bon, c'est le film d'une génération.
Vous avez vu le casting de l'enfant de E.T. Alors, sur YouTube, on trouve le casting. C'est hallucinant. Quand il passe le casting devant Spielberg.
Ah oui.
Ah oui, il est brillant. Et en fait, à peine il a passé le casting, Spielberg dit You got the job, kid. Parce que tout le monde est en larmes et tout ça. C'est hallucinant.
Vous rêvez de tourner avec Spielberg ?
Ah bon ?
Je sais pas.
D'accord.
Je sais pas, vous êtes tellement...
Non mais E.T., c'est génial.
Ah oui. Ah, vous l'avez vu, E.T.
Ah bah bien sûr.
Ah d'accord, d'accord. Mais quand même. Mais oui, mais vous l'avez vu, il était sorti depuis un moment quand vous l'avez...
Bah je sais pas, quelle année E.T.
De 82, j'allais dire 81.
Mais ce qui est étonnant quand on projette à des enfants des vieux films comme ça, c'est de voir le regard qu'ils ont sur un cinéma qui est très différent du cinéma contemporain, dans le rythme, dans les couleurs, dans la mise en scène. Parfois, ça demande un petit temps d'adaptation.
Ben, c'est-à-dire, c'est très, très intéressant. Le cinéma muet, par exemple, pour des enfants de 3, 4, 5 ans, ils préfèrent les films muets, à condition qu'on les choisisse, à des films parlants. Ça leur demande beaucoup moins d'efforts, parce qu'il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de mots qu'ils ne comprennent pas. Donc, il suffit de les regarder avec eux, de leur lire les intertitres, les cartons, il y en a en général assez peu, mais ça les passionne. Il y a notamment un documentaire qui s'appelle Nanouk l'Esquimo, qui est un film qui a été un des premiers documentaires qui a été tourné sur les Inuits. Quand on voit une famille inuite au milieu de petits chiens de traîneau, bébés, au milieu des fourrures dans les igloos, je peux dire, il n'y a pas un parent et pas un enfant qui ne font pas devant ces images. Oui. Donc l'idée, c'était à la fois de mettre des classiques auxquels on ne peut pas échapper, La Grande Vadrouille, E.T., Kirikou, évidemment, mais aussi de mettre plein de pépites à découvrir. Là, par exemple, pour tous les gens qui écoutent, et je vous incite tous à cliquer sur Internet, tout devait se trouver en un clic. Pas de chef-d'œuvre introuvable. Le Hérisson dans le brouillard, qui est un petit film russe de 11 minutes, qui est un grand classique du cinéma d'animation, considéré comme le meilleur film d'animation de tous les temps par beaucoup de critiques. Le Hérisson dans le brouillard, vous regardez ce soir avant le coucher, avec ou sans enfant, je peux vous dire, vous allez passer une belle nuit. Donc il y avait l'idée de faire découvrir des choses comme ça.
Ah, je vais le faire.
En vous écoutant, du coup, je pense à autre chose. Notre père nous emmenait voir les Marx Brothers. Et moi, c'est des souvenirs, parce que c'est des gags, parce que c'est international, parce qu'il n'y a pas besoin finalement. Et pourtant, c'est en noir et blanc.
Alors les Marx Brothers, on ne pouvait pas le mettre parce que ce n'est que en VO. C'est appréciable. Et donc on s'est dit, quand même, on fait le livre pour 3-8 ans. On s'est dit, il faut que les films soient possible en VF pour la plupart, parce que sinon ça devient compliqué, c'est-à-dire des enfants de 5 ans devant un film en VO, c'est difficile.
Et Nicolas Boukrieff en VF, en version française, on verra 3 jours et une vie au mois de septembre prochain.
Oui, le 18 septembre.
C'est votre prochain film.
C'est le prochain film, ce qui est adapté de Pierre Lemaitre, ouais. qui avait fait Au revoir là-haut.
Ouais,
donc
sûr.
C'est la suite, en fait, c'est le livre qu'il a écrit après Au revoir là-haut. Et il a fait comme pour Au revoir là-haut. Il est allé voir Dupontel en disant voilà, je voudrais que ce soit vous. Et il m'a fait le même honneur, c'est-à-dire qu'il est venu me voir en disant voilà, j'ai fait ce livre, j'ai fait le scénario, je voudrais que ce soit vous. J'aime ce que vous faites. Donc ça ne se refuse pas. J'ai lu le scénario, c'est une histoire qui ne pouvait pas se refuser. C'est une tellement bonne histoire. Ça n'était jamais arrivé. C'est la première fois que je fais un film que je n'ai pas écrit. Et je dois avouer que je suis tombé fou amoureux de cette histoire et j'espère lui avoir rendu hommage.
Et ben vous viendrez nous en reparler, j'espère, sur l'antenne d'Europe 1. Merci infiniment.